Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée, de leur pensée ou des auteurs qui leur sont chers. À 10h46, Géraldine Mosna-Sawa vous proposera comme tous les vendredis son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Elle donnera aujourd'hui un conseil pour bien mourir aux socialistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Camille Riquier, maître de conférence à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, qui fait paraître aux presses universitaires de France « Philosophie de Peggy » ou « Les mémoires d'un imbécile ».
Charles Peggy fut tué au champ d'honneur près de Villeroy le 5 septembre 1914. Quelques jours plus tard, dans les côtes de Paris, Maurice Barrès transformait sa figure en un mythe national. Il donnait à la France un poète et aux Français le garant de leur héroïsme. Lui, l'obscur gérant d'une revue au tirage confidentiel, était sorti impétueusement de sa boutique et avait pu se confondre pendant quelques jours avec le sort de la nation tout entière. On ne voulut pas voir l'œuvre interrompue, perdue irrémédiablement, mais le terme ultime qui s'accordait harmonieusement avec la conduite qu'il s'était fixée et qui rejoignait la destinée du pays. Charles Peggy s'est dit être un vaincu sa vie durant, et c'est par sa mort qu'il devait s'inscrire sur ses registres, les registres de l'histoire. Elle, qu'il aimait faire parler par prosopopée comme la muse Clio. Que n'aurait-elle pas dit ? Qu'en voilà un Peggy qui a réussi sa mort, une mort bien fauchée avec du sang, le seul liquide noble qu'elle aime voir couler d'un corps. Ce qu'il me faut à moi, dit-elle, c'est une mort avec une date.
Quand le capitaine est tombé au pied de l'arbre de Trempe, qui est à 200 mètres ici à droite, il a pris effectivement le commandement de la compagnie, a sorti son épée du fourreau, il avait le revolver au poing, il a rentré dans sa gaine, a sorti son épée et s'est dressé devant nous en criant « Le capitaine est tombé, je prends le commandement, suivez-moi en avant à la baïonnette ». Nous avons donc suivi ce brave lieutenant sur quelques dizaines de mètres, mais les rafales de mitrailleuses étaient telles qu'il a fallu se coucher. Un grand nombre de mes camarades, une centaine, étaient déjà tombés morts, et une cinquantaine environ de blessés, c'est-à-dire que la compagnie était complètement saccagée. L'un des officiers venait d'être tué, après le capitaine Guérin, le commandant de la compagnie, et il restait donc le lieutenant en question qui avait pris le commandement. Il restait debout sous la rafale, quand tout à coup, après que nous lui ayons crié « Couchez-vous, nous n'avons plus de sac, mais moi non plus, j'en ai pas », criait-il, les voyez bien, tirez, tirez, nom de Dieu ! Alors nous tirions comme des mercenaires, nous avons épuisé presque toutes nos cartouches, et à ce moment, une balle est venue frapper ce pauvre lieutenant au front, et il est tombé sans un cri, dans un souffle, disant simplement « Oh mon Dieu, mes enfants !»
Comment s'appelait ce lieutenant ?
Ce lieutenant, le pion, c'était mon lieutenant, c'était Charles Peggy.
Bonjour Camille Riquier.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci à vous.
Philosophie de Peggy ou les mémoires d'un imbécile. Les mémoires d'un imbécile, c'est le sous-titre de votre livre qui paraît aux presses universitaires de France, mais c'est surtout le titre que Peggy aurait donné à son livre de confession si le 5 septembre 1914, il n'avait pas été tué au champ d'honneur, comme le raconte son camarade Alphonse Tellier dans l'archive bouleversante qu'on vient d'entendre.
Oui, d'ailleurs j'ai commencé l'ouvrage en énumérant tous les livres que Peggy aurait souhaité écrire. Les mémoires d'un imbécile en fait partie. Ce témoignage me bouleverse d'autant plus que cette mort au champ d'honneur, j'y vois un double sacrifice. C'est-à-dire le sacrifice de l'homme soldat, capitaine, qui s'est battu pour la France, mais également le sacrifice de l'homme qu'il n'a pas pu être, qu'il aurait aimé être. Le philosophe, au fond, qu'il aurait souhaité être cet autre Peggy dont il parle, à qui il avait donné d'abord un premier nom, Pierre Baudouin. Et qu'il a sacrifié aussi. D'une certaine manière, avec cette mort, il y a un double sacrifice. Le sacrifice de sa vie et de cette vie virtuelle qu'il n'a pas pu actualiser à cause du combat qu'il a mené, le combat socialiste, le combat Dreyfusard. Donc si on devait d'ailleurs ajouter une fin encore plus bouleversante à celle qu'on vient d'entendre, le dernier mot de Peggy n'est pas celui-ci, n'est pas « tirer, tirer, nom de Dieu ». C'est pas le Rosebud, pour parler comme Citizen Kane, qui viendrait en quelque sorte résumer toute sa vie. Ce qui me bouleverse encore plus, c'est quelques jours plus tard, quand la femme de Charles Peggy, Charlotte Baudouin, est venue reconnaître le corps. La tête de Peggy était enveloppée dans sa capote de lieutenant, et dans sa poche, il y avait un mouchoir avec les initiales PB, Pierre Baudouin. C'est-à-dire, l'homme qu'il aurait voulu être, le philosophe qu'il aurait voulu être. C'est-à-dire qu'il y a ici, en quelque sorte, vraiment un double sacrifice. Cet homme qui n'a pas vu le jour, qu'il a renié, qu'il a trahi, d'une certaine manière. Il y a un très beau passage dans une de ses œuvres en disant « Je me suis jamais renié, je me suis jamais trahi. Ma vie fut droite de bout en bout. Néanmoins, il y a une seule trahison qui vaille, c'est la trahison de soi, le reniement de soi, pour une cause noble. » Et au fond, c'est ce premier reniement qui décide de toute sa vie. C'est le reniement du philosophe qu'il aurait pu être et qu'il n'a pas été.
Et pourquoi a-t-il sacrifié ce philosophe en lui ?
Parce qu'il y avait une autre vocation, plus impérieuse, qui a, dès le départ, entravé cette vocation initiale, à savoir la vocation socialiste. Il y avait une urgence, l'urgence étant présente, il devait se battre, il devait militer, il devait préparer la venue d'un monde nouveau, socialiste, dont il croyait d'ailleurs la venue imminente, et qui devait en quelque sorte mettre en suspens la vie heureuse, la vie philosophique, qui aurait dû être la sienne. Donc, d'une certaine manière, ce sacrifice double, cette immense cicatrice que je vois courir le long de sa prose et qui me bouleverse infiniment plus et que j'ai voulu aussi réactualiser, puisque malgré tout, il ne peut pas s'empêcher d'être aussi le philosophe qu'il aurait aimé être et qui se retrouve ici ou là.
Parce qu'il a énormément écrit tout en s'engageant aux côtés du socialisme et pour le socialisme à sa manière, parce qu'il a toujours été un marginal, toujours en dehors du socialisme alors qu'il se disait socialiste, toujours en dehors du catholicisme alors qu'il se revendiquait catholique, et toujours en dehors des écrivains de l'édition alors que lui-même a fondé les Cahiers de la Quinzaine. C'est comme ça ce qu'il lègue peut-être non seulement à la postérité, même au présent. On le connaît pour ça, même si c'est très difficile pour lui de faire vivre ces Cahiers de la Quinzaine. On a aujourd'hui plusieurs volumes en Pléiade des œuvres de Peggy. C'est dire combien il a écrit.
Ah, c'est inimaginable. En l'espace de 13-14 ans, il a écrit 4 volumes de Pléiade, c'est-à-dire 5000 pages de prose et de poésie.
Et il écrivait pour la postérité, dit-il.
Il écrivait pour la postérité, d'abord parce qu'il n'était peut-être pas lu suffisamment.
Dès qu'il n'est pas le choix.
Dans les temps qui furent les siens. Mais surtout, il écrivait de façon irrépressible. Encore une fois, c'est ce philosophe qui était en lui, à l'état virtuel, qui malgré tout remontait à la surface autant qu'il pouvait et s'immisçait dans les différents événements dont il devait rendre compte par quinzaine. Donc, sur un coin de table, lorsqu'il était à l'imprimerie, préparant le futur numéro, il écrivait sans cesse, et le plus souvent d'ailleurs de la copie inaboutie, c'est-à-dire que la grande majorité des textes que nous avons dans l'édition Pléiade n'ont pas été publiés de son vivant, mais posthumes. Donc il y a non seulement des œuvres virtuelles, mais des œuvres inachevées.
On va entendre des extraits de ces œuvres aujourd'hui, évidemment, Camille Riquet. C'est l'intérêt d'être à la radio, c'est qu'on peut entendre les textes et Peggy accordait lui-même énormément d'importance à la voix, au ton, qui disait beaucoup de la pensée elle-même. Mais avant cela, ou peut-être pour introduire le premier texte qu'on va entendre, vous avez pris comme fil conducteur de votre ouvrage sur Peggy le terme d'imbécile, en fait, ou les mémoires d'un imbécile. Donc je l'ai dit, c'était le titre que lui-même voulait donner à ses confessions qui n'ont pas vu le jour. Comment faut-il comprendre imbécile ici ?
Il y a plusieurs manières de l'entendre. On retrouve le terme ici ou là, partout, et je m'en suis servi comme d'un fil directeur. Et selon les périodes où il l'utilise, on peut lui donner un nouvel aspect. Mais on peut littéralement l'ériger en concept, exactement comme Deleuze lui-même avait proposé avec l'idiot aussi un concept et avec l'idiot un personnage conceptuel. Mais d'une certaine manière, ici, nous avons affaire
à un imbécile
philosophique, grandement philosophique. Alors, d'ailleurs, on va peut-être voir plusieurs de ces aspects au fur et à mesure, mais le premier d'entre eux, il le dit d'ailleurs, peut-être ne faut-il pas le croire, mais il se disait assez peu intelligent, parce qu'il avait du mal à passer d'une idée à l'autre. Il avait du mal à passer d'un système à l'autre, comme un touriste. Pour lui, lorsqu'on lui évoquait une idée, c'était en l'air, ça n'entrait pas, ça pénétrait pas. D'où la nécessité pour lui de répéter la chose, et de la répéter inlassablement pour que l'idée finisse par s'incorporer. Pour ainsi la comprendre, éventuellement intuitivement, comme le disait Bergson. Donc c'était pas un salonnier, il n'était pas un inépuisable salonnier qui parlait sans cesse pour dire toujours des choses nouvelles. Il se répétait parce que il avait besoin en quelque sorte d'idées incarnées. C'est aussi la différence qu'il y a peut-être entre les universitaires qui peuvent agréablement passer d'un système à l'autre et lui qui, avec quelques auteurs qui l'accompagnent toujours, ses contemporains, Descartes, Pascal, Bergson, répétaient sans cesse la même chose, mais ancrés dans le réel, pour lire le réel. Donc d'un côté, les universitaires sans main, puisqu'au fond, Kant n'a pas de main, mais on pourrait tout à fait dire de tous les universitaires qu'ils n'ont pas de main, qu'ils n'ont qu'une tête face au texte qu'ils nous étudient.
Vous, et puis, vous faites allusion à un reproche que l'on peut faire à Kant quant à la morale kantienne. On dit mais Kant justement n'a pas les mains sales parce qu'il n'a pas de main. C'est-à-dire que c'est une morale tellement exigeante, c'est une manière de dire que la morale kantienne est désincarnée.
Voilà, c'était la belle formule que Peggy avait adressée au kantisme. Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de main.
Voilà.
Lui, au contraire,
salir avec avoir une paire
voilà,
de mains.
Exactement. Et puis des mains, comme il le dit, calleuses, noueuses. Lui a choisi de fonder Nivari, de se risquer économiquement et de se battre en socialiste. Et en cela, il avait des mains, il savait ce qu'il en coûtait de défendre une idée.
Alors on va entendre justement un texte où il est question de cette librairie Bellay, qui est située au 17 rue Cujas. Et dans ce texte, on y entend un éloge de la bêtise, au sens peut-être où vous venez de définir l'imbécilité, même si on va distinguer les deux, ou peut-être le revendiquer, le fait que parfois on ne peut pas passer d'une idée à l'autre, on se trompe sans doute, mais il est nécessaire, nous dit Peggy, c'est ce qui est le plus surprenant, de se tromper parfois, d'être bête, sans doute pour mieux ensuite accéder à l'intelligence. Écoutez ce texte interprété par Georges Clès.
Sur le premier mouvement socialiste, revue bimensuelle internationale, il n'est pas jusqu'au nom de l'éditeur qui ne soit le plus plein de mémoire. L'éditeur, c'était moi, naturellement. Mais la firme était celle de la librairie Georges Bellay, 17 rue Cujas, 17, Paris. Librairie Bellay, ancienne librairie Bellay, berceau de nos espérances, laboratoire de nos sincérités, tombeau de nos illusions. Qu'êtes-vous devenu? Et vous, mon vieil ami Georges Bellay, qui mit votre bonne renommée commerciale tout au service d'un petit boursier d'études. Permettez qu'aujourd'hui je profite un peu de ce moment d'attendrissement, évidemment sénile, pour vous envoyer sur la rive droite, par-dessus les ponts de la Seine, et, publiquement, ce bref souvenir de nos jeunes années. Nous avons été bêtes au-delà de tout ce que les jeunes gens d'aujourd'hui peuvent imaginer. Mais je plains celui qui a 25 ans n'est pas le dernier des imbéciles, des niais, des confiants. Je plains celui qui, dans la naissance et dans la troublante adolescence de l'affaire Dreyfus, dans l'ébranlement, dans le sursaut, dans le scandale de tout un peuple, n'eût pas été la dupe de la plus apprêtée. Celui de nous qui, en janvier 1899, eût deviné, eût connu, senti les hontes et les lâchetés de toutes les amnisties qui nous attendaient, qui nous guettaient, que l'on nous préparait, que déjà certains escomptaient. Celui-là eût été un jeune homme très intelligent, mais je plains celui-là.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Charles Peggy aujourd'hui à l'occasion de la parution du livre du philosophe Camille Riquier, Philosophie de Peggy ou les mémoires d'un imbécile, et cet imbécile dont parle Peggy dans ce texte, eh bien c'est celui qui se sera sans doute trompé, hein, nous dit-il, lorsqu'il parle des amnisties, il parle des amnisties des instigateurs de l'affaire Dreyfus, en 99, où donc certaines amnisties vont être prononcées, c'est-à-dire qu'on va gracier ceux qui ont été à l'origine même du scandale de l'affaire Dreyfus, et un an plus tard, le Sénat va voter l'amnistie générale, donc on est dans un contexte vraiment de trahison, en tout cas on se situe à côté de l'engagement qui est prôné par Peggy, eh bien dit-il, contre toute attente, je plains celui qui aurait vu venir ces amnisties. Je plains celui qui aurait compris, peut-être, qui n'aurait pas été dupe de l'affaire Dreyfus. Comment comprendre cet éloge de la bêtise et de l'imbécilité, puisqu'il prononce le terme dans le texte?
Il prononce le terme, et vous le voyez, assez tôt. Ouais. Même s'il dit une fois le mot bêtise, c'est quand même l'imbécilité qui reviendra sans cesse. Et probablement faudra-t-il les distinguer, si on devait retenir le sens que Deleuze lui donne par ailleurs. Peggy revient ici, mais en un sens, il revient sans cesse sur ses années de jeunesse, sur ces deux ans de combat socialiste qui, pour lui, constituent en quelque sorte le souvenir sacré autour duquel va se cristalliser toute sa vie. année lumineuse de combat, où effectivement, il était bien incapable de savoir ce que d'autres feraient de cette affaire. Il faut bien d'abord être imbécile pour se battre pour la justice et la vérité, puisque le plus souvent, on se bat pour cette justice contre soi, contre ses propres intérêts. Donc ça, c'est déjà aussi un premier sens du terme d'imbécilité. Il faut être imbécile aussi pour croire ses maîtres comme il l'a fait, aussi naïvement. Mais souvenez-vous aussi de vos années d'études, combien vous avez cru, combien vous êtes imprégné aussi de la parole enseignante. Moi-même, j'ai encore souvenir de ces premiers ouvrages que je lisais lorsque j'avais 20 ans et qui, en quelque sorte, m'imprégnaient. C'était en quelque sorte des enseignements que je recevais par le sang. Maintenant, je n'ai plus cette possibilité, en quelque sorte, de lire comme je le faisais alors. Et c'est cet éloge que fait Peggy de cette jeunesse, plein d'espoir, et qui croit peut-être au-delà de ce qui serait raisonnable de croire.
Donc l'imbécilité du côté de la naïveté, de oui. L'absence d'esprit critique.
C'est ça, le confiant, le dupe, le naïf, l'imbécile enfin. Et lui, pour lui, le peuple, d'une certaine manière, le plus souvent, est imbécile. Il va à l'honnêteté, en quelque sorte, par instinct. La jeunesse aussi. D'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion ici de distinguer la bêtise deleuzienne de l'imbécilité péguiste.
Alors je vous propose, pour le faire, de laisser la parole à Gilles Deleuze. Écoutez.
Résister à la bêtise. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, les gens, ils font comme si la philosophie, après tout, c'est bon pour les conversations d'après-dîner. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, on ne se doute pas du niveau de la bêtise. La philosophie, elle empêche la bêtise d'être aussi grande qu'elle serait s'il n'y avait pas de philosophie. C'est sa splendeur. On ne se doute pas de ce que ce serait. Cela, les gens, ils se tiendraient plus. C'est pas qu'ils lisent la philosophie, mais c'est sa seule existence qui empêche les gens d'être aussi stupides et aussi bêtes qu'ils le seraient s'il n'y avait pas elle. Si on dit, par exemple, la philosophie, ça consiste à créer des concepts, et par là, à nuire à la bêtise, à empêcher la bêtise. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'elle meure, la philosophie? On peut l'empêcher, on peut la censurer, on peut l'assassiner, mais... Elle a une fonction. Elle va pas mourir. Mais la mort de la philosophie, ça m'a toujours paru une idée, mais d'imbécile, quoi. C'est une idée idiote. Je comprends même pas ce que ça veut dire, la mort de la philosophie. Ça me paraît une idée un peu débile, quoi, gentillette, pour dire les choses changent, il n'y a plus de raison que... Mais qu'est-ce qui va remplacer la philosophie? Qu'est-ce qui va créer des concepts? Alors on peut me dire, il faut plus créer de concepts. Ah ben oui, et la bêtise règne.
Alors la bêtise n'est pas forcément un concept, comme le concept de l'idiot que propose Deleuze, mais en tout cas on sait comment lutter contre la bêtise pour Deleuze, c'est par la philosophie. C'est plus difficile avec l'imbécilité. La philosophie comme rempart à la bêtise, on comprend pourquoi. L'imbécilité, elle, au contraire, peut-être est compatible avec l'exercice de la philosophie, non, Camille Riquier?
Tout à fait compatible. Le magnifique passage de Deleuze le dit bien, mais on le retrouve dans différentes répétitions, puisque la bêtise deleuzienne doit s'articuler nécessairement avec l'idiotie, qui est un concept noble et philosophique. L'idiot philosophique, c'est Socrate, c'est Nicolas de Cuse, l'idiota qui reprend d'ailleurs le personnage socratique. C'est Descartes, évidemment, avec la tabula rasa, la remise en cause de tout, jusqu'à l'idiot Dostoïevski. Donc il faut opposer les deux. La bêtise, ce serait cette paresse qui fait que on croit savoir sans savoir qu'on croit. Ça, c'est le bête, qui s'estime suffisant, non pas philosophe, mais sophiste, ça veut dire sachant déjà, et pour cette raison-là même, se dispensant de toute recherche. Ça, c'est le bête, et c'est notre état naturel, en quelque sorte. Et la philosophie, pour Deleuze, c'est une manière de nous en prémunir, de cette bêtise qui nous appartient tous. Nous sommes tous sujets à la bêtise. Et le meilleur antidote, c'est l'idiotie. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a quelque chose, au contraire, dans cet univers familier qui est le nôtre, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Un événement, un signe qui nous interpelle, et parce qu'on ne le comprend pas, qui nous force à penser, qui nous violente du dehors. Et ça, c'est le début de l'idiotie, c'est l'étonnement socratique. Tout d'un coup, on se retrouve à l'état de stupeur. Et cette idiotie, c'est le début de la pensée pour Deleuze. Donc il y a vraiment ces deux. Et cette idiotie, c'est tout d'un coup, moi, je ne comprends pas ce que les autres comprennent. Alors que les autres prétendent tout savoir, je suis un idiot et je vais ne pas comprendre ce que tout le monde sait, ou en tout cas feindre, c'est l'ironie socratique, feindre de ne pas comprendre ce que tout le monde prétend savoir.
C'est l'idiot de Dostoïevski, par exemple.
Exactement. Ou c'est l'idiot cartésien qui remet tout en cause. C'est-à-dire l'incrédule, celui qui, d'un coup, ne croit pas tout ce qu'on lui a dit jusqu'ici. L'autorité parentale, l'autorité scolaire, etc. Peggy, c'est le contraire. L'imbécile, c'est pas l'incrédule, c'est pas celui qui va, pour se mettre à philosopher, tout remettre à plat, interroger toutes les notions qui jusqu'ici étaient familières, la liberté, la justice, etc. C'est celui au contraire qui va tout croire.
Qui croit.
Qui croit, mais qui croit plus que de raison. Comme on peut croire quand on a 20 ans, et qu'on a même parfois 15 ans de cœur.
C'est celui qui croit, mais est-ce que c'est celui qui croit en Dieu? Ou qui croit en l'existence du monde? Ou qui croit en quoi? Comment comprendre le statut de la croyance ici?
Non, c'est d'abord croire à ce qu'on lui dit. Dans un texte, c'est l'argent il me semble, Peggy le dit, il dit j'ai une maladie. J'ai une maladie grave, je crois tout ce qu'on me dit. Et quand j'étais petit, j'avais des maîtres, des républicains, qui m'enseignaient une métaphysique laïque, positiviste, et puis j'avais en face les curés, puisqu'il a le catéchisme, et qui me disaient exactement le contraire de ce que mes maîtres m'enseignaient. Eh bien, allez savoir, je les croyais tous les deux, d'une même foi naïve. Il fallait que ça se conjugue d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'était sa maladie, d'être crédule. Cette crédulité l'a poursuivi, puisqu'il a fini par croire de la même façon, avec la même sincérité, ses maîtres en socialisme, Lucien Herr, Charles Handler, Jean Jaurès, qui lui promettaient un monde harmonieux, un monde meilleur. C'est-à-dire qu'il a cru ses maîtres beaucoup plus qu'eux-mêmes ne croyaient à ce qu'ils disaient. De la même façon, il faut toujours se rendre compte que c'est l'élève qui sait de quoi parle le maître. Le maître oubliera sa leçon, l'élève, jamais. C'est ça la crédulité, c'est ça l'imbécilité. Et c'est par cela aussi qu'on commence la philosophie. C'est-à-dire par tous ces espoirs qu'on met dans ces idées qui font d'abord sens pour nous, qui ont fait sens pour Peggy, les idées socialistes.
Croire est une marque d'imbécilité au sens où vous venez de la définir, Camille Riquier. Mais croire en Dieu, la croyance en un Dieu, la foi catholique, n'est pas elle-même source d'imbécilité. Charles Peggy tient à faire la différence justement entre la croyance par laquelle nous devons tous passer quand nous sommes jeunes pour ensuite peut-être en sortir, on verra, et la croyance, disons, religieuse qui au contraire, elle ne doit pas être identifiée à une forme de bêtise ou d'imbécilité. Écoutez ce texte tiré d'un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, qui a eu le malheur d'affirmer que finalement la croyance relevait sans doute de la bêtise. Qui est Fernand Laudet, Camille Riquier?
Fernand Laudet, c'était le directeur d'une revue catholique qui avait une large audience à l'époque, et dans les colonnes de laquelle Peggy avait reçu une très mauvaise critique de son mystère de la charité de Jeanne d'Arc en 1910, et qui pour lui attaquait les principaux articles de la foi chrétienne. Donc c'est aussi l'occasion pour lui de revenir sur la manière d'être chrétien dans les temps modernes, c'est-à-dire dans une société sécularisée, dans une société athée. Donc imbécile, on va le voir, mais il a été lorsqu'il était socialiste, mais peut-être continue-t-il à l'être ensuite, en étant chrétien. Puisque d'une certaine manière, dans un monde qui n'est pas chrétien, comment être chrétien sans passer pour un imbécile?
Eh ben, c'est justement, en tout cas, Monsieur Laudet a piqué Peggy au bon endroit, voici sa réponse impitoyable.
Quand Jeanne d'Arc entend et voit ces voix, quand une sainte reçoit sa vocation par le ministère d'autres saintes, M. Laudet en conclut qu'elle était naïve. Je l'imaginais plus naïve. Comment sans cela en eût-elle cru ses voix? Cette proposition est si effarante qu'elle porte avec soi son propre commentaire. On est tout bête, on n'a rien à dire. On regarde la phrase comme un idiot. Je l'imaginais plus naïve. Comment, sans cela, en eût-elle cru ses voix? Dans cette extraordinaire proposition, digne couronnement de tant d'hérésie, apparaît enfin la véritable pensée de M. Laudet, ou plutôt le fond de la pensée de M. Laudet. Le fond de la pensée de M. Laudet, disons-le sans fard, c'est que ceux qui croient sont des imbéciles. C'est que de croire, c'est bon pour des gens comme nous autres. Mais un grand seigneur, mais un haut esprit comme lui, pensait-on, le directeur de la revue hebdomadaire, M. Laudet lui-même. Le fond de la pensée, s'il est permis de parler ainsi, de M. Laudet lui-même, c'est que de croire, c'est bon pour nous autres imbéciles. Celui qui croit, n'est-ce pas, est toujours un peu sot entre nous, un peu niais, un peu naïf. Que c'est un bon type, qu'il nous faut encourager cela ou ça, naturellement, pour le monde, oui, pour les femmes, pour les enfants, pour les curés de campagne, pour les petites gens, pour les pauvres, pour les misérables. Mais que nous autres, n'est-ce pas, entre hommes ou fumoirs, eh bien oui, on sait à quoi s'en tenir, on sait faire la part de ce qui est raisonnable.
Il venait très souvent chez moi, à Trie, où j'avais une assez jolie maison à ce moment-là, pour se décharger de tous ses fardeaux, toutes ses responsabilités, de toutes ses fatigues. Il venait là, il avait là sa chambre du samedi au lundi. Et après déjeuner, nous avions décidé d'aller jusqu'à la cathédrale de Gisors. Et à un moment, nous sommes arrivés devant un mur qui portait une pierre gravée. Et sur cette pierre gravée, chose assez curieuse, il y avait détaillé d'une façon singulièrement précise l'aspect du chevalier qui reposait au pied de ce pilier. Et je me suis tournée vers Peggy et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, en lui montrant la dernière ligne, « Ainsi ressuscitera-t-il le jour du jugement ?» Je lui ai dit, « Vous croyez ça ? Vous croyez ça littéralement ?» Je me rappelle encore, il m'a saisi aux épaules. Et il m'a dit avec une espèce de violence extraordinaire, me le criant dans la figure, « Vous saurez me le redire. » Voilà. Il a disparu dans le feu, mais il m'avait d'abord fait cadeau de cette parole.
C'est le témoignage de Madame Simone, qui a bien connu Charles Péguy, un extrait des entretiens du 17 juillet 1957. L'imbécilité comme signe de la foi. Finalement, celui qui croit est imbécile, parce que croire, c'est forcément ne pas faire appel à sa raison, mais à une autre possibilité en nous qui est celle de la croyance, qui est celle de la foi, qui est irrationnelle, et en cela peut-être est-elle imbécile, non, Camille Riquet ?
Oui, même si on peut tout à fait imaginer qu'elle s'articule ensuite avec la raison. La foi est imbécile. L'accusation que Fernand Laudet lui adresse, en tout cas par l'intermédiaire d'une de ses plumes, qui est François Le Gris, mais Peggy répond directement à Fernand Laudet, le directeur de la revue. C'était la consigne que Georges Sorel lui avait donnée, frappe toujours la tête. Donc il avait frappé la tête, Fernand Laudet.
Ça veut dire quoi? Répond directement.
Répond directement, François Le Gris. C'était une sous-plume, au fond. Et il entendait la voix du maître qui était au fond, Fernand Laudet, celui qui avait autorisé l'article. Et il se rend compte, voilà, l'accusation, c'est de dire, mais on ne peut plus croire comme on croyait en ancien temps. On ne peut plus croire comme Jeanne d'Arc croyait, et croyait en ses voix. Maintenant, nous sommes modernes, intelligents, et il y voit ici, pour lui, voilà, une hérésie de celui qui croit sans croire. Ces chrétiens honteux, qui ont honte de leur Dieu à l'intérieur, et qui, à l'extérieur, puisque nous sommes dans une société sans Dieu, lorgnent du coin de l'œil pour être sûr quand même que les gens ne finiront pas par croire qu'ils croient. Attention, nous sommes entre nous, je suis suffisamment malin, donc manière de grossir sa clientèle catholique, et en même temps, cette peur qui est pour le chrétien finalement la grande crainte moderne, cette peur de passer pour un imbécile. D'avoir honte qu'on puisse éventuellement l'envisager comme un imbécile. Peggy, par la manière même dont il investit ses idées, qu'il y croit, lui c'est celui précisément qui n'a pas peur de cette épithète qu'on lui a souvent adressée, d'être un imbécile. Et de croire comme un imbécile. Il dit, c'est ainsi, je serai aussi bête que saint Augustin, je serai aussi bête que saint Jean Chrysostome. Nous n'avons pas fait de progrès. Et nous ferons comme les autres ont fait avant nous. Ça, c'est une autre manière, en quelque sorte, de récupérer pour soi l'accusation d'imbécilité qui lui avait été adressée.
Donc l'imbécilité réside dans le fait de croire à ce qu'on nous dit, de croire en Dieu. L'imbécilité consiste aussi dans le cadre de la modernité, et ça vous le montrez bien dans votre ouvrage, Camille Riquet, à rester à sa place au fond, c'est-à-dire à croire envers et contre tout, à tenir une position envers et contre tout quand il est si facile et si, encourager, quand on nous invite sans cesse à changer de position, à changer de camp. Charles Péguy reste au même endroit, sur la même trajectoire toute sa vie, et c'est une autre modalité de ce qu'il lui appelle, avec ironie bien sûr, l'imbécilité.
Oui, où on retrouve toujours cette crédulité, cette croyance, ce à quoi il est attaché. Puisqu'au fond, avoir une mystique, c'est un des termes aussi qu'il emploie, c'est simplement tenir sa place et croire à certaines valeurs, à certaines idées. Alors, nous sommes maintenant dans un monde moderne, un monde capitaliste, un monde qu'il ne veut pas, et qui ne veut pas de lui. Et donc forcément, lorsqu'on refuse de marcher dans le sens où va le monde, on passe pour un imbécile pour ce monde-ci. C'est ainsi qu'il voyait ses amis universitaires entrer dans sa boutique, lui prendre les mains à deux mains avec un geste de commisération, voyons, et légèrement de mépris pour celui qui n'avait pas réussi, qui lisait de la copie, qui désespérait de ne pas avoir plus de 1000 abonnés et qui passait éventuellement pour un imbécile à leurs yeux. Parce que dans ce monde-là, ne réussit pas celui qui travaille. Ça, c'est l'idée de Peggy. Il dit, ça, c'est un monde qui a fait aux travailleurs une situation absolument nouvelle. Jusqu'ici, il dit, dans les anciens mondes, quels qu'ils soient, il fallait rester à sa place. Et lorsqu'on restait à sa place, lorsque celui qui restait à sa place travaillait, il était sûr, bon, non pas d'être riche, mais au moins de ne pas tomber dans la misère. Et au contraire, c'était de sortir de sa place qu'on risquait de chuter. C'est le destin grec, c'est celui qui dépasse la limite et qui risque en quelque sorte de déchoir. C'est chez les chrétiens celui qui veut s'élever et qu'on abaisse. Bref, la sanction était immédiate pour celui qui voulait monter, qui voulait quitter sa place. Le monde moderne, c'est celui où chacun veut quitter sa place, veut monter. C'est l'ascension bourgeoise qui nous invite toujours à ne pas tenir en place, l'expression de Peggy est celle-ci, faire le malin. C'est le monde de ceux qui font les malins, c'est-à-dire qui ne cessent de se faufiler dans le siècle pour faire carrière. Et pour changer de place sans cesse. Et ce qui est étonnant, et ce qui fait qu'il est un imbécile dans ce monde-là, c'est que pour celui qui veut tenir sa place et qui refuse de faire carrière, qui refuse de se faufiler, eh bien, on ne peut pas en quelque sorte s'assurer de la réserve de travail dans laquelle on est. Celui qui veut tenir sa place déchoit naturellement. Déchoit comme malgré lui. C'est celui qui travaille, si je puis dire, qui se rend misérable. Et c'est celui qui ne tient pas sa place qui réussit. Donc dans ce monde-là, effectivement, il est un imbécile. Dans les autres, ceux qui réussissent n'auraient pas manqué d'être sanctionnés, mais là, c'est lui l'imbécile. Et comme il le dit, malheureusement, ils ont raison.
Quand nous disons moderne, c'est le nom même dont ils se vantent. C'est le nom de leur orgueil et de leur invention. C'est le nom qu'ils aiment, qu'ils revendiquent, ou comme ils disent, qu'ils affectionnent. C'est le nom d'orgueil fou dont ils vêtent leur orgueil. L'ère moderne, la science moderne, l'État moderne, l'école moderne. Ils disent même la religion moderne. Il y en a même plusieurs qui disent le christianisme moderne. Et il y en a un qui dit le catholicisme moderne. Or, il est d'une très bonne, d'une excellente méthode, toutes les fois qu'on le peut, historiquement, de choisir pour le mettre sur une idée, sur un système, sur une caste, sur une école, sur une secte, sur une classe, sur un parti, exactement le nom, précisément le titre, que cette idée, ce système, cette caste, cette école, cette secte, cette classe ou ce parti, s'est lui-même arrogé, s'est intérieurement choisi, qu'il revendique et s'est alloué, qu'il a personnellement assumé le nom qui intérieurement, personnellement a jailli de son orgueil ou de sa révolte, ou qui a coulé de son insuffisance ou de son imbécilité. C'est Peggy qui écrit ces phrases, évidemment. Camille Riquet, on reconnaît son style. Lui qui accordait tant d'importance au style et au ton des phrases qui se répètent, qui sont comme circulaires et qui tout d'un coup font une avancée très puissante et retombent et reprennent ce qui a déjà été dit. C'est un extrait de La situation faite au parti intellectuel, 1907. Là, pour le coup, la modernité est tout à fait opposée à l'imbécilité. Ça illustre ce que vous venez de dire. C'est pas forcément son ennemi, mais ça permet de le définir, lui. On comprend pourquoi il se définit comme imbécile par rapport à cette modernité.
Bien sûr, puisque c'est un monde qu'il ne veut pas et donc qu'il va prendre de plein fouet puisque refusant de marcher dans le sens qui est le sien, il va en quelque sorte marcher contre son sens. D'ailleurs, c'est le terme qu'il donne à l'aventurier, c'est celui qui va contre son sens. Et allant contre le sens où va le monde, forcément, il le prend de plein fouet pour l'étudier, pour le voir tel qu'il est, mais comme un imbécile. Et en ce sens-là, la philosophie est imbécile en ce sens qu'elle recèle en elle une puissance révolutionnaire. Celui qui philosophe, c'est celui, en quelque sorte, qui refuse le monde tel qu'il est. Il y a quelque chose de toujours subversif, de révolutionnaire dans la pensée, et dans la pensée philosophique. Et donc, refusant le monde tel qu'il est, il va s'employer à l'étudier, et à voir ce qu'il appellerait plutôt la sottise du monde moderne.
Alors, quelle différence?
Alors, il y a une différence, même si elle n'est pas toujours rigoureuse, mais on la retrouve nettement dans ces textes, exactement comme le couple idiot et bêtise pouvait fonctionner chez Deleuze. Ce sont les modernes qui sont sots. Il reprend ici d'ailleurs une citation de Molière dans Les Précieuses Ridicules. On peut être très savant et très sot à la fois. C'est justement ceux qui savent beaucoup de choses, mais en même temps de façon très creuse, sans croire à ce qu'ils disent. Justement, ce sont des sachants. On sait beaucoup de choses, on est érudit, mais
on n'y croit pas.
On n'y croit pas, on n'y engage que sa tête, mais pas son cœur. Donc il y a une certaine sottise propre à la modernité qui a cru d'une certaine manière dépasser les anciens mondes. C'est-à-dire regardant du haut de son progrès les mondes chrétiens, les mondes hébraïques, les mondes grecs, depuis la lorgnette de l'histoire. Donc on sait beaucoup de choses, mais en quelque sorte, on ne s'y sent pas proche. Justement, c'est toute la distance historique qui peut nous séparer d'elle. Alors que Peggy, lorsqu'il parle de Platon, lorsqu'il parle d'Homère, il parle de ses contemporains. Ce sont des lectures, en quelque sorte, qui encore l'animent et auxquelles il est attaché de cœur.
Et est-ce qu'on peut transmettre cette imbécilité? Est-ce que Peggy, professeur, aurait pu transmettre à ses élèves cette manière de ce contact direct avec l'époque sans passer par le prisme de la modernité, du savoir qui nous éloigne de la croyance? Ou est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de la volonté? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est un tempérament, un caractère,
sûr,
ou est-ce que c'est le fruit d'un travail?
Je ne sais pas si c'est un travail, mais probablement avons-nous tous été un peu imbéciles. Il le dit, à 15 ans, 20 ans, lorsqu'il était arrivé à Paris, il disait ce jeune homme sombre et stupide. Mais pour lui, il y a à la fois un défaut et une qualité. Jeunes, nous sommes tous un peu imbéciles, et nous lisons comme jamais nous ne lirons par la suite. Et c'est cet art de lecture, d'ailleurs, qu'il veut nous apprendre à nouveau. C'est-à-dire ne pas interposer entre nous et le texte tous ces intermédiaires critiques de glose qui nous met toujours le texte à distance de façon respectueuse. Au contraire, il s'agit de rentrer en sympathie.
Mais voilà, vous prononcez le terme. Tout ce que vous dites fait penser à ce que Bergson dit de l'intuition. On vient de consacrer sur les chemins de la philosophie une série d'émissions à La pensée et le mouvement, le dernier texte publié d'Henri Bergson. Et dans l'émission notamment de mercredi dernier en compagnie d'David Lapoujade, on parlait de l'importance du concept de sympathie qui fait qu'on est en communion avec les choses qui nous entourent et qu'on reproduit ce que l'on voit à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on lit Peggy, quand on vous écoute Camille Riquier, il est difficile de pas penser à Bergson. Comment s'est passée la rencontre entre ces deux grands hommes que sont Peggy et Bergson, rencontre intellectuelle?
Ça a été ce qu'on pourrait malgré tout appeler son maître. C'est celui d'ailleurs qui l'a un petit peu délivré de l'emprise que pouvaient avoir par ailleurs ses autres professeurs, ses maîtres de Normale Sup, puisque c'est un maître pour lui qui l'a libéré.
Bergson a libéré Peggy.
Bergson a libéré Peggy par sa manière, par son style. Alors que c'est ce qu'il suspecte chez beaucoup, parce que c'était l'arrivée des intellectuels. L'affaire Dreyfus a été l'occasion, en quelque sorte, de voir arriver une nouvelle caste, c'est-à-dire ces intellectuels qui, tout d'un coup, ont un mot à dire et peuvent former l'opinion publique, et donc gouverner les esprits. Bergson, c'est au contraire celui qui n'a jamais rien imposé, qui n'a pas abusé de son magistère, et qui a libéré les esprits. Celui de Peggy, comme de tant d'autres. Et donc, ce sont ces livres qu'il a lus, ce sont ces cours qu'il a suivis, qui l'ont pénétré, et qui, en quelque sorte, ont été métabolisés et retrouvés vivants dans l'enseignement qu'il dispensait dans les cahiers de la quinzaine. Parce qu'il estimait que les cahiers de la quinzaine, c'était un organe d'enseignement aussi, pour ainsi dire une université, mais en quelque sorte où les auteurs qui étaient proposés y étaient lus et travaillés de façon vivante. Donc, le Bergson vivant, c'était les cahiers de la quinzaine. Le Bergson mort officiel, c'était éventuellement ailleurs.
Il y a un lien entre l'imbécilité chez Peggy et l'intuition bergsonienne, cette manière d'être à côté de l'intelligence?
Alors, vous le faites, et on pourrait le faire. Ce qui est sûr, c'est que Bergson lui a appris à lire, et à lire autrement, c'est-à-dire effectivement par sympathie, par intuition. D'un côté, il disait il ne faut que rien ne s'interpose entre soi et la lecture. Il faut que le lu et le lisant coïncident. Justement pour que tout d'un coup on puisse nourrir de sa propre chair les idées qu'on reçoit. Et donc c'est pour ça que pour lui il s'agissait de prendre l'édition la moins critique, la plus simple qu'il soit. Et la meilleure situation dans laquelle nous pouvions nous trouver pour bien lire, pour lui c'était malade. Malade. Et c'est là où il relut Homère. Parce que c'est à ce moment-là qu'on lit pour lire, on lit pas pour travailler. On lit pas avec une certaine idée de derrière la tête qui nous oriente dans nos lectures. Et tout d'un coup, on se retrouve ici, pur récepteur, capable de réactualiser ce qui est lu et qui fait qu'on peut lire Homère comme si le livre, l'Iliade, venait de sortir la veille. C'est de cela dont il s'agit.
Dans votre livre, le vôtre, Camille Riquier, Philosophie de Peggy ou les mémoires d'un imbécile, on a d'abord le... On a trois grandes parties, l'innocence, on l'a vu, la jeunesse, l'imbécilité propre à la jeunesse, puis la chute, qui est peut-être le corollaire nécessaire de la modernité, et enfin le salut. Il y a une forme d'imbécilité qui est celle de la, la pureté de cœur du chrétien. C'est une forme suprême de l'imbécilité ?
Oui, et puis relu rétrospectivement. Si on devait d'ailleurs donc résumer son parcours, Peggy fut d'abord socialiste. Jeune, il pensait que l'affaire Dreyfus était un événement qui allait en quelque sorte servir de catalyseur de force capable de voir la venue d'un nouveau monde socialiste. En cela, il s'est rendu compte qu'il a été imbécile, dupe de ses maîtres. Il a cru dans les promesses qu'on lui faisait. Première forme d'imbécilité. Ensuite, en lieu et place du monde socialiste, il a vu venir son antithèse, le monde moderne, le monde capitaliste. Les socialistes s'étant beaucoup plus préoccupés de fonder un parti socialiste plutôt que de fonder une nouvelle cité. Dans ce monde-là, deuxième forme d'imbécilité, effectivement, c'est un monde qui ne veut pas de lui et où forcément celui qui travaille, qui s'attelle à sa tâche, passe pour un imbécile aux yeux des autres. Et puis troisième forme d'imbécilité, et c'est là la venue à la fois chrétienne, puisqu'il était d'abord athée, et c'est dans les années 1907, 1908, 1909, que progressivement, non pas qu'il devient chrétien, il s'aperçoit qu'alors, socialiste, son cœur vibrait chrétien, d'une charité mal entendue. Et il s'aperçoit d'une certaine manière que, alors, ses maîtres l'avaient abusé, l'avaient trompé, avaient commandé son corps, avaient gouverné son esprit, on parlait d'endoctrinement, quelque chose comme ça, mais n'avaient pas pu, en quelque sorte, atteindre la pureté de son cœur. Que cela a été resté, si je puis dire, inentamé, ce cœur qui a cru. Et c'est là, lumineusement, dans un texte où il rapproche cette imbécilité dont il parlait avec la simplicité d'esprit des évangiles. Cela, en quelque sorte, ils ne l'ont pas eu, ils ne l'ont pas volé. Et il s'aperçoit ainsi, rétrospectivement, que c'est cela qui le sauve. C'est cette imbécilité, au fond, qui l'a sauvé. Parce que sans s'en apercevoir encore, il y avait chez lui dans son combat socialiste, comme il le dit, une pré-fidélité chrétienne. Il était chrétien peut-être sans le savoir.
Ce monde moderne a tout fait pour éliminer de soi hermétiquement toute chrétienté, mais il y a des reports, et il y a l'éternelle attention. Tant d'ignorance que nous avons vu est un déjà, un commencement d'innocence, tant de gaucherie, tant de maladresse, une métaphysique si imbécile, une si rare, une si louable incompétence. Ce n'est pas impunément que Dieu rend un siècle aussi niais. Il faut qu'il y ait quelque chose là-dessous, quelque manigance de la grâce, et cette infirmité que nous avons vue, non pas seulement une faiblesse, une imbécilité pour ainsi dire ordinaire, mais une détresse, mais une infirmité profonde, essentielle, mais une infirmité intime, mais une infirmité axiale, mais une infirmité centrale, au centre même du mécanisme organique. Cela, mon enfant, c'est le sort même de la créature. C'est la nature même de l'homme. C'est le goût profond de la chrétienté. Et c'est toujours par là que la chrétienté rentre. Merci Camille Riquet.
Merci à vous Adèle.
Lisez, chers auditeurs, le livre de Camille Riquet, Philosophie de Peggy ou Les mémoires d'un imbécile. On a abordé très rapidement la troisième partie, il ne reste qu'une chose à faire. Eh bien, se procurer votre livre, Camille Riquet, Philosophie de Peggy ou Les mémoires d'un imbécile, disponible aux presses universitaires de France.
L'âge idiot, c'est à 20 fleurs, quand le ventre brûle de faim, qu'on croit en se laver le cœur, rien qu'en se lavant les mains. Qu'on a les yeux plus grands que le ventre, qu'on a les yeux plus grands que le cœur, qu'on a le cœur encore trop tendre, qu'on a les yeux encore pleins de fleurs. Qu'on sent bon les champs de luzerne, l'odeur des tambours mal battus, qu'on sent les clairons refroidis et les lits de petites vertus, et qu'on s'endort toutes les nuits dans les casernes. J'idiot, cette apparente fleur. Quand le ventre prend naissance, quand le ventre prend puissance, qu'il vous grignote le cœur. Quand les yeux se font plus lourds, quand les yeux marquent les heures, eux qui savent qu'à 30 fleurs commence le compte à rebours. Jette les vieux dans leur caverne, qu'on offre à Dieu des bonnets d'âne, mais que le soir on s'allume des feux en frottant de cœurs de femmes, et qu'on regrette déjà un peu le temps des idiot, c'est 60 fleurs. Quand le ventre se balote, quand le ventre ventripote, qu'il vous a bouffé le cœur.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'art, comme tous les vendredis, de retrouver le petit précis philosophique de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Chaque vendredi, vous donnez des conseils aux personnalités politiques qui sont sur le devant de la scène. Alors, à qui avez-vous choisi de donner des conseils aujourd'hui ?
Eh bien oui, Adèle, jusqu'ici c'était des conseils pour des candidats, mais ça y est, les élections c'est fini. Alors pour se remettre de cette longue période et pour encourager les perdants, encore deux conseils avant les vacances. Et aujourd'hui, un conseil pour les socialistes. Comment faire face quand on nous dit mort ?
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
La mort est un sujet classique en philosophie. Platon, Schopenhauer ou Heidegger, pour ne citer que, la mort c'est donc un passage obligé et même dans la pensée. Mais depuis ces histoires de renouvellement, elle semble être aussi devenue un sujet classique pour les politiques et notamment pour les socialistes.
Je l'ai dit, et parce que nous ne l'avons pas fait, parce que nous n'avons pas été capables de changer notre nom, de nous dépasser, de changer notre nature. Nous sommes encore, certains espèrent, des alliances avec Mélenchon. Nous avons une alliance avec des écologistes qui, eux, espèrent une alliance avec Mélenchon. Il y a des socialistes au sein du Parti Socialiste qui espèrent aussi cette alliance. Qu'avons-nous à faire ensemble ? Plus rien.
Sigi, le PS, Requiem à Solferino ou encore l'adieu à la patrie socialiste. Toute cette semaine, on a pu lire des chroniques, opinions et éditos sur la mort du Parti Socialiste. Mais déjà, dès le premier tour des élections présidentielles et le score éliminatoire de Benoît Hamon, Manuel Valls mettait les pieds dans le plat et pointait l'urgence d'un renouvellement pour les socialistes. Mais là est bien le problème. Avant d'envisager le renouveau d'un parti, encore faut-il acter sa mort. Non pas seulement trouver les raisons de sa chute ou les raisons de rebondir, mais encore faut-il y faire face. Et c'est bien Épicure et sa lettre à Ménécée qui peuvent être ici d'un grand secours. « Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous », dit ainsi Épicure, « car tout bien et tout mal réside dans la sensation, et la mort est privation de toute sensibilité. » Mais comment, dans le cas des socialistes, ne pas craindre la mort quand ils peuvent en fait la ressentir et qu'ils peuvent donc l'expérimenter ?
La défaite de la gauche est incontournable. La déroute du Parti Socialiste sans appel. La droite fait face à un véritable échec. Enfin, les populistes de tous bords sont relégués aux marges. Les électeurs ont voulu donner sa chance au nouveau président. Ils n'ont laissé aucune chance à ses adversaires.
La mort n'est rien pour nous, dit donc Épicure, car comme il le précise, tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Elle n'existe donc ni pour les vivants, ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds ne sont plus. Mais que faire alors avec les socialistes qui semblent à la fois morts et vivants, morts-vivants d'une certaine manière ? Eh bien, quand on écoute Jean-Christophe Cambadélis au soir du second tour des législatives, on pourrait en fait dire qu'ils sont un contre-exemple à eux seuls. Qu'ils mettent à l'épreuve l'argument même d'Épicure selon lequel on est soit mort, soit vivant. Car ils actent en direct la fin d'une existence, ils vivent paradoxalement la mort, celle du moins d'un certain parti socialiste. Mais si Jean-Christophe Cambadélis et les socialistes sont ainsi à l'inverse de ces gens qui fuient la mort et qu'ils vivent leur propre fin, jusqu'où peuvent-ils vraiment bien la vivre ?
Oser plus de démocratie. Voilà ce dont la France a besoin, voilà le programme de travail qui doit désormais occuper la gauche. La gauche doit tout changer, la forme comme le fond, ses idées comme ses organisations. La gauche doit ouvrir un nouveau cycle. Il s'agit de repenser les racines du progressisme, car ces deux piliers, l'État-providence et l'extension continue des libertés, sont remis en cause.
sitôt enterré, sitôt remis sur pied. Déjà, le PS semble renaître de ses cendres et en cela, encore une fois, Jean-Christophe Cambadélis et les socialistes semblent suivre Épicure. Ils n'incitent pas, je cite, d'un côté les jeunes gens à bien vivre et de l'autre les vieillards à bien mourir. Ils ont compris, je cite encore, que bien vivre et bien mourir constituent un seul et même exercice. Mais en se demandant jusqu'où peut-on bien vivre sa propre mort, la question n'est pas tant de savoir jusqu'où il faut avoir envie de mettre fin à quelque chose, d'achever ici le PS, mais jusqu'où il est possible de bien le faire par soi-même et ensemble pour l'avenir. Et là-dessus, Épicure est sans appel. Si l'avenir, nous dit-il, ne nous échappe pas absolument, il ne nous appartient pas non plus totalement.
Alors l'avantage, Géraldine, c'est comme nous allons tous mourir, on peut tous lire la lettre à Ménécée d'Épicure pour le coup. Ça va nous parler, pas que les membres du Parti Socialiste.
Mais c'est vrai, on doit tous lire cette lettre à Ménécée d'Épicure. Et puis pour les socialistes, quant à eux, ils peuvent lire les stoïciens pour changer, Sénèque et ses lettres à Lucilius, où il conseille pour sa part de se pencher seulement sur ce qui dépend de nous, de quoi bien achever une fois pour toutes ce PS.
Vous êtes impitoyable, Géraldine, mais c'est noté, le conseil est donné, une chronique à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et merci à tous. L'émission touche à sa fin, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine, une série d'émissions sur l'opinion. Tocqueville et la fabrique de l'opinion lundi, Karl Popper et les théories du complot, ça ce sera mardi, John Stuart Mill et la liberté d'expression mercredi, et enfin Nietzsche et les fake news, ça ce sera jeudi. Tout un programme donc à découvrir dès lundi prochain à 10h en direct. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission ainsi que celle de cette semaine consacrée à Bergson, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur leur compte Twitter et Facebook, enfin sur le compte de l'émission. L'équipe des Chemins de la Philosophie, c'est Nicolas Bouteloup, Livia Garrigue, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, bien sûr, Antoine Ravon, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine, Élise Leu et Johan Richard Dufour qui étaient à la prise de son. Aujourd'hui, un grand merci à Georges Oclès qui nous a prêté sa voix cette semaine. À 11h sur France Culture, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde, mais tout de suite, votre feuilleton quotidien, La Vie Moderne.